Micro, microscopie, suite, suite, microscopie, suite. Édouard Zambeau.
On se retrouve dans la seconde partie de cette émission consacrée à l'évolution des relations sociales et salariales en entreprise. Après les questions autour du désespoir qui peut être provoqué par le travail que nous avons essayé d'aborder en première partie de cette émission, nous allons au moins au début de cette deuxième partie essayer de réfléchir à la manière dont les salariés sont invités à s'investir pour leur entreprise et la façon dont ils sont ou non récompensés par un partage de la richesse. Alors pour nous éclairer, nous avons été rejoints par l'économiste Gilles Bercette, enseignant à l'Université de la Méditerranée et membre du Conseil d'analyse économique. Bonjour Gilles Bercette.
Bonjour.
Vous avez été l'un des auteurs d'un rapport consacré, je cite, au partage des fruits de la croissance remis au Premier ministre juste avant l'été. Selon vous, même en imaginant une croissance qui n'est pas là aujourd'hui, il est un peu illusoire, c'est les conclusions quand même, d'espérer que les entreprises puissent participer à l'amélioration du pouvoir d'achat. En gros, est-ce qu'on peut résumer votre rapport comme ça?
Oui. Déjà, en élément de contexte, il faut avoir en tête que le taux de marge des entreprises en France est très bas comparé à celui des autres pays industrialisés. Pour vous donner un seul élément, c'est le plus bas parmi tous les pays de l'Union européenne.
Donc elles ont moins d'argent à distribuer.
Elles ont moins d'argent à distribuer, ou plutôt la crise que connaissent tous les pays a des conséquences en termes de situation financière des entreprises, sans doute un petit peu plus graves en France qu'ailleurs, puisqu'on part d'une situation, on part d'un niveau de départ moins favorable que d'autres pays.
Sur un point de vue général, Gilles Bercette, les salariés, selon vous, touchent-ils aujourd'hui, c'est presque un jugement moral que je vous demande, une juste rémunération et une juste considération au regard de la valeur de leur travail?
Alors, de ce point de vue-là, en moyenne, le partage salaire-profit, si vous voulez, la part des salaires et des profits de chacune de ces deux composantes dans la valeur ajoutée, est tout à fait en ligne avec ce qu'on observe depuis une cinquantaine d'années en France.
Donc les salariés n'ont pas vraiment de raison d'être si malheureux?
Le salarié moyen n'a pas de raison d'être malheureux. Mais par contre, quand on regarde les choses un petit peu plus finement, on voit qu'il y a une très forte dispersion des inégalités par le haut. Les 15% des salariés les mieux payés ont connu des évolutions salariales très favorables, d'une part. Et deuxièmement, en bas de la hiérarchie des salaires, c'est tout à fait l'inverse. Compte tenu des fortes revalorisations du SMIC qu'on a connues sur les 7 à 8 dernières années, eh bien, les salariés les moins bien payés ont un peu rattraper le peloton.
C'est-à-dire que le salarié médian, un peu en bas de revenu, a peur d'être rattrapé par les pauvres.
Voilà, alors le salarié médian, si vous voulez, se retrouve dans une situation où il est à la fois distancé par le haut, par les salariés les mieux payés, et rattrapé par le bas. Du coup, il y a une certaine insatisfaction, puisque lui peut avoir le sentiment légitime de ne pas avoir profité, si je peux dire, d'une façon équitable, des fruits de la croissance.
On dit, Gilles Bercette, que vous êtes un spécialiste du marché du travail. Le marché du travail est-il un marché comme les autres?
Un marché du travail n'est évidemment pas un marché comme les autres, puisque ce qu'on vend sur le marché du travail, c'est évidemment du temps de travail.
Est-ce que justement, ce n'est pas cette volonté, je dirais, de faire du marché du travail un marché comme les autres, qui crée les malaises qu'on voit aujourd'hui apparaître dans les grandes entreprises?
Mais néanmoins, il ne faut pas penser que le marché du travail est un marché comme les autres, non seulement qualitativement, mais aussi parce que l'État intervient plus dans le marché du travail que dans d'autres marchés. Il y a un code du travail, évidemment, qui encadre les évolutions salariales beaucoup plus. Dans d'autres marchés, les prix peuvent être encadrés.
Dernière question, Gilles Bercette. Est-ce que vous pensez que les salariés sont beaucoup, aujourd'hui, en période de crise particulièrement, mis à contribution pour au nom de la sauvegarde des entreprises, alors qu'en période de vache plus grasse,
Non. Globalement, comme je vous l'ai dit, le taux de marge est resté stabilisé. Et par contre, il s'est effondré en 2008 et il risque de tomber encore en 2009. Les salariés ne sont pas pénalisés en termes de salaire. Je vous rappelle qu'au deuxième trimestre de l'année 2009, l'évolution du pouvoir d'achat des salaires a été plus forte que jamais sur les 20 dernières années. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que dans des pays comme le nôtre, les évolutions de l'emploi sont très feutrées. Heureusement, malgré les baisses d'emploi, les baisses d'emploi n'ont pas été en proportion du ralentissement de l'activité économique en France, qui n'est pas du tout le cas d'autres pays comme le Royaume-Uni et surtout les États-Unis.
Gilles Bercette, je vous remercie de ces éclairages. Daniel Linhart, est-ce que vous pensez que cette vision que nous proposait Gilles Bercette, qui est quand même assez économique, quand je lui demandais si les salariés français avaient des bonnes raisons de se plaindre aujourd'hui d'être malheureux, il me dit objectivement non. Comment expliquer alors ce malaise?
Écoutez, il y a un sondage qui est frappant, qui est reproduit chaque année, et Et chaque année, entre 50 et 60% des Français n'excluent pas de se retrouver un jour SDF. Et je crois que ça en dit long sur l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire de véritables sentiments de précarité. Les salariés français ont le sentiment de ne rien maîtriser et de ne pas être sûr, quelques efforts qu'ils fassent, d'être toujours à la hauteur, de mériter toujours leur place ou d'avoir toujours leur place dans les entreprises. Ça, je crois que c'est un phénomène peut-être plus spécifiquement français.
On a l'impression que ces salariés, ils ont l'impression que les dés sont pipés quelque part quand on parle avec eux, dont on le voit dans les reportages. Qu'en période de croissance, on leur dit attendez des jours meilleurs, il faut qu'on prépare l'avenir de l'entreprise. Et qu'en période de crise, on leur dit il faut vous serrer la ceinture. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Gérard Leclerc. Il est le directeur des ressources humaines du célèbre constructeur automobile Renault. Et il détaille au micro de Pauline Mocor ce qui s'appelle aujourd'hui chez Renault le contrat social de crise qui a été mis en place en avril dernier, justement pour traverser la crise. Un contrat qui repose chez Renault, il l'explique, sur la mobilisation de tous au service de l'entreprise.
Le contrat social de crise que nous avons mis en place concerne 100% des salariés de Renault, l'ensemble des managers, les hauts managers, les cadres, les ingénieurs et toute la maîtrise et les ouvriers. Et donc tout le monde se serre les coudes pour permettre à l'entreprise de sortir renforcée de la crise que nous subissons aujourd'hui. Le principe du contrat social de crise est d'être basé sur la solidarité et équité. Et l'équité, c'est une contribution identique, que ce soit pour les ouvriers ou pour les cadres, dans le cadre du chômage partiel.
Quand on a des salaires de dirigeants et d'ouvriers qui n'ont rien à voir, en fait, est-ce qu'on peut toujours parler d'équité ?
Je crois que ce qui est important, c'est l'effort qui est fait. Ne pas venir en ce moment tous les vendredis pour l'encadrement représente un effort très important.
Ce qui compte, en fait, c'est le geste.
Ce qui compte, c'est bien sûr, c'est le geste et puis l'apport que cela fait pour l'ensemble des ouvriers.
Une fois la croissance revenue, est-ce que Renault prévoit de faire un geste pour saluer l'engagement de ses salariés dans ce contrat social ?
On a séparé la discussion en deux. Il y a tout de suite et plus tard. On saura en tenir compte. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire ni combien, ni quand.
Est-ce que cette situation, elle n'aurait pas pu être évitée en amont, en utilisant autrement les bénéfices de 2008 qui avaient été redistribués sous forme de dividendes aux actionnaires ?
On a, en 2008, distribué des dividendes, et début 2008, il n'y avait encore absolument aucun prémisse de cette crise qui a été brutale pour tout le monde.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que solliciter la solidarité des salariés, ce n'est pas un moyen de se défausser pour Renault ?
Lorsqu'une entreprise traverse une crise, la première des priorités, c'est de penser au personnel qui est dans l'entreprise. Ce que nous devons rechercher absolument, c'est d'être vivant en sortie de crise.
Les mots sont parfois assez mal choisis. Il y a eu un suicide il y a encore peu de temps chez Renault, rappelons-le. Daniel Linhart, on a l'impression que le corps social représenté par l'entreprise, là, est présenté par ce DRH, très calmement, comme quelque chose qui doit s'imposer, qui est supérieur au corps individuel qui compose l'entreprise. Il serait inconvenant, en fait, de ne pas se sacrifier pour son entreprise.
Absolument. Mais je pensais, en entendant, à toutes les entreprises qui ferment et qui, 2-3 ans auparavant, demandaient des efforts spécifiques aux salariés, aux ouvriers, pour que, justement, ils assurent la pérennité de leur entreprise. Et puis, soudainement, pour des raisons X, Y, etc., on ne peut plus rien faire et on ferme. Et je crois que ce qui n'est pas perçu derrière ce type de discours, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont engagés dans des situations extrêmement difficiles et que c'est vrai qu'un ouvrier, pour un opérateur, puisque maintenant on ne parle plus d'ouvrier, avoir un jour de moins de salaire, ce n'est pas exactement la même chose que pour un manager. Et je crois qu'il y a un degré d'éloignement des décideurs de la réalité de ce que vivent les gens qu'ils ont sous leur responsabilité qui est assez étonnant. Alors, on demande aux salariés de ne nouer qu'une relation très personnelle, à la limite très psychologisée à leur relation de travail. Ils sont, comme vous disiez tout au début, un peu abandonnés, un peu isolés. Mais dès qu'il s'agit du sort de l'entreprise, on imagine tout un chacun s'effaçant derrière un bien commun, un intérêt général qui serait celui de l'entreprise. Effectivement, ces oscillations n'ont pas de sens pour les salariés.
C'est ce que vous décrivez dans dans votre dernier livre, c'est en fait, on a l'impression que la gestion de ces entreprises est basée sur des paradoxes. On invoque des valeurs que l'on décrit, on demande des efforts que l'on refuse.
Oui, c'est ça.
La boussole est cassée.
La boussole est cassée, on demande aux salariés de s'identifier à leur entreprise, de s'engager, de s'impliquer, de se défoncer, etc., etc. Mais lorsqu'il s'agit de fermer, on leur dit, écoutez, de toute façon, c'est pas un problème, vous pouvez très bien vous reclasser, il n'y a pas des liens aussi forts avec l'entreprise qui ferait que vous n'imagineriez pas de travailler ailleurs. C'est vrai qu'il y a des sons de cloche tellement différents que les salariés ont l'impression qu'on ne respecte plus aucune règle du jeu. Ça, c'est un phénomène qu'on ressent vraiment dans les entreprises.
Justement, hein, sur cet effort qui est demandé aux salariés, je vous propose maintenant de nous rendre en Alsace. Alors, on va aller dans l'usine Osram de Molsheim. Osram, c'est une filiale du géant allemand Siemens, que tout le monde connaît. Hein. C'est une entreprise qui fabrique des ampoules qui sont sur vos bureaux, sur le mien. Au nom d'une directive européenne qui prévoit la fin des ampoules à incandescence, pour aller vite, hein, une directive à laquelle la direction était ouvertement très favorable, il a été demandé quand même peu de temps après aux salariés de se serrer la ceinture et d'accepter de diminuer leur salaire de 12% en 3 ans. Ce n'est pas rien. Hein. Pauline Mocor vous raconte le combat des salariés en compagnie de quelques-uns d'entre eux et puis de maître Ralph Blindauer qui est l'avocat du comité d'entreprise. Malheureusement, hein, par deux fois, la direction d'Osram n'a pas souhaité nous donner son point de vue.
On est devant l'usine, devant l'usine Osram. On est sur le parking parce que la direction refuse de laisser rentrer journalistes, etc. Ils ne communiquent pratiquement pas avec les journalistes. Au mois de janvier 2009, notre employeur nous a proposé de descendre nos salaires sur 3 ans de 12,5% pour ne pas avoir besoin de licencier. Donc sur les 600 personnes concernées, toujours d'après la direction, nous sommes 108 à avoir refusé.
Voilà, il est 14h, moi je sors du poste du matin, donc je rentre à la maison. Moi je m'appelle Véler Rémy, je suis régleur sur machine depuis 1989. J'ai 42 ans, j'ai accepté la baisse de salaire de 12,5. Moi je suis seul à travailler à la maison, on est 5, j'ai pas trop le choix pour l'instant de vouloir refuser. Après, que je perde maintenant 12,5 et que je me retrouve au chômage, je pense que j'en aurai plus à perdre au chômage. Et je ne sais pas si je trouverai un travail prochainement.
12,5% sur votre salaire, ça représente combien ?
En gros, 150 à 200 euros.
Sur un salaire de combien ?
Bon, j'ai 1800 euros, à peu près. On était volontaires, bien sûr. Mais bon, c'est un peu volontariat forcé, je dirais. Et comme j'ai dit, la crise actuelle ne nous permet pas de choisir vraiment. Pour moi, c'est une évidence que les patrons en profitent pour baisser les salaires. Alors que ce soit des ouvriers, peut-être de certains cadres, mais en tout cas, chez nous, ils n'étaient pas concernés.
Et vous pensez que ces baisses de salaire, elles vont permettre de préserver l'emploi ?
Non. Non, personnellement, non.
Donc si vous avez accepté de baisser votre salaire, c'est pas tant par solidarité pour vos collègues, mais plutôt pour éviter de vous retrouver au chômage.
Voilà, c'est pour gagner 2-3 ans. Maintenant, en solidarité avec les collègues. Mais ça me donne aussi le temps de me retourner et puis de faire peut-être certaines choses personnellement que je pourrais pas faire si je me retrouve au chômage, ou au moins j'ai le temps de me retourner, de voir l'avenir.
Donc, Osram demande aux salariés, individuellement, par avenant à leur contrat de travail, de renoncer à 12,5% de salaire sur 3 ans. 108 salariés refusent, on organise un plan social, on commence par examiner le plan social, et puis on s'aperçoit qu'en réalité, les avenants qui sont proposés aux salariés sont totalement illégaux.
Donc Agnès Metzger, j'ai 37 ans, je travaille au service marketing luminaire, et je suis chez Osram depuis février 2000. Donc en janvier, nous avons été convoqués pour une réunion d'information qui nous a été présentée par notre président, donc Monsieur Le Bihan, dans lequel il nous exposait à l'aide de slides la situation donc de l'entreprise. Et comme nous sommes, dixit Monsieur Le Bihan, pénalisés par notre droit du travail français, il fallait baisser notre salaire sur 3 ans de 12,5%. J'ai posé la question de savoir si on était libre ou non d'accepter ou de refuser. Oui, nous sommes libres ou non d'accepter. J'ai dit, mais que se passe-t-il si on refuse ? Et notre président, Monsieur Le Bihan, m'a bien dit, vous serez libre de chercher du travail ailleurs. C'était pas je vous vire, c'était je vous laisse la liberté. Effectivement, on avait le choix. Hein. C'est marche ou crève, en gros.
Donc le tribunal de grande instance est saisi, mais le tribunal a mesuré que faire droit à notre demande, ça induisait probablement une réaction brutale du groupe, hein, en disant je peux pas geler les salaires, je ferme l'usine. Par exemple, le tribunal a craint tout simplement cette réaction-là de la part du groupe et a ordonné la médiation.
Au mois de mars, par lettre recommandée, on a eu un avenant contrat de travail à la maison, donc on avait un mois pour répondre. Et donc, en ne répondant pas, c'était une acceptation d'office, quoi. Donc ça veut dire que c'est un accord tacite. Les réunions qui ont été faites avec le personnel, on leur a bien fait comprendre que s'ils refusaient cet avenant contrat de travail, ils seraient licenciés. C'est carrément du chantage à l'emploi qu'on leur a fait. Déjà, la mesure la plus injuste, déjà pour les salariés au départ, c'était déjà que c'est que le personnel de l'usine et les administratifs, alors que les cadres ne sont pas concernés par cette mesure. Alors bon, nous, on ne veut pas de guerre entre cadres et non-cadres. Le problème, il n'est pas là. Moi, je ne pense pas qu'un cadre, il est surpayé. Puis bon, quand on demande des efforts à des personnes qui gagnent 1 000, 1 200 euros par mois, je pense que quelque part, le bas blesse quand même quelque part. Hein. On n'est pas surpayé. Hein.
Il y avait peut-être d'autres choses à faire. Certes, la production est condamnée, il ne faut pas se leurrer, mais on fait partie d'un grand groupe qui s'appelle Siemens, qui pèse quand même assez lourd au niveau de son chiffre d'affaires. C'est 4 milliards d'euros en 2008.
Alors, à l'issue de la médiation, la direction renonce à son plan de baisse de salaire de 12,5% sur 3 ans. C'est énorme. La direction nous garantit la pérennité du site jusqu'en 2014.
Dans l'avenant, il y avait marqué ce qui était sur 3 ans, mais quand on lui posait la question de savoir si où on s'arrêterait, il était incapable de le dire. Et s'il y avait des garanties, dans cet avenant, il n'était nulle part marqué que l'emploi était garanti et que le site serait sauvé.
Il n'y avait pas de justification économique à ça. Nous sommes arrivés à une solution de compromis, mais moi je trouve tout aussi inadmissible ce gel des salaires, je trouve tout aussi inadmissible qu'on grappille sur les temps de pause, je trouve la position de la direction injustifiable sur le plan économique, que je la trouve infâme sur le plan moral et social, parce qu'il s'agit de grappiller 2 millions et demi, je crois, d'économies sur l'usine de Molsheim. C'est quelque chose de totalement négligeable quand on regarde les performances économiques de l'usine de Molsheim. De tête, hein, parce que j'ai pas le dossier sous les yeux, mais je crois que le bénéfice qui a été dégagé par Osram Molsheim, c'était 17 millions d'euros. Quant aux performances du groupe, j'ai plus en tête, mais ça fait beaucoup de zéros. On est dans les économies de bout de chandelle. Hein. C'est-à-dire que les salaires, c'est la variable d'ajustement. Les salaires et les salariés, c'est la variable d'ajustement. On n'en trouvera pas d'autres. Et on trouvera certainement pas une variable d'ajustement sur les profits et sur les bénéfices. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, on est dans une démarche européenne de pression sur les salaires, de mise en concurrence des salariés les uns avec les autres, parce qu'ils ont une usine en Slovaquie. On va commencer par les Français, puis ensuite on dira aux Allemands, regardez, les Français sont moins chers que vous. Et c'est un cycle sans fin. Hein, mais c'est une démarche européenne de pression sur les salaires, notamment sur l'Europe occidentale. Et on met les salariés en concurrence les uns avec les autres. C'est une démarche de type ultralibéral pur.
Daniel Linard, je vous posais la question tout à l'heure à Gilbert Sept. Il me disait que le marché du travail était un marché différent. À entendre ce vibrant plaidoyer, évidemment, c'est un avocat et c'est l'avocat des salariés de Osram. On a l'impression qu'ils sont considérés comme une matière première.
Oui, ils sont considérés comme une matière première. Ils sont un élément de la machine à faire du profit. Clairement, moi, ce qui me frappe le plus en écoutant tous les reportages, franchement, que je trouve excellent, c'est qu'au fond, on est dans un contexte tout nouveau où les chefs d'entreprise, les managers sous-traitent tous leurs problèmes aux salariés. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit au niveau des organisations du travail que les salariés ont à faire avec tous les dysfonctionnements, l'absence de conception cohérente des organisations, le fait qu'il y ait incompatibilité entre objectifs de qualité, de productivité. Ce que nous disent les salariés dans les enquêtes, c'est le mot d'ordre, c'est débrouillez-vous, c'est comme ça qu'on mesurera vos compétences. Et là, ce qu'on entend, c'est nous avons des problèmes financiers, on vous les sous-traite, réduisez vos salaires, dites-nous que vous êtes volontaire et tout ira bien. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on a affaire à des managers, à des chefs d'entreprise qui ne s'impose plus aucun devoir, plus aucune contrôle, plus aucune contrainte, pardon, qui ne font plus écran du tout à la loi du marché par rapport à leurs salariés, par rapport à leur
Est-ce que vous avez l'impression, Daniel Linard, comme on a pu parler, de la normalisation au lendemain de la guerre du salariat qui est devenu la norme en termes de travail, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à la fin du salariat, c'est-à-dire que chaque employé, chaque travailleur d'une entreprise serait considéré comme son propre patron, et notamment, je pense à la vague, à l'engouement autour du statut d'auto-entrepreneur qui aujourd'hui gagne la France, et où chacun serait aujourd'hui finalement en quelque sorte le prestataire de service d'une entreprise avec laquelle il a des liens plus ou moins habituels.
Oui, moi je crois que c'est un des objectifs de la modernisation, c'est d'inculquer aux salariés le fait qu'ils sont responsables d'eux-mêmes et que tout ce qui leur arrive provient de leur capacité ou incapacité à avoir les bons ou les mauvaises compétences, à être au bon endroit ou pas au bon endroit. Et véritablement, en fait, il y a une sorte vraiment de défaussement généralisé sur les salariés de toutes les imprévisibilités, de toutes les incertitudes qui caractérisent la vie économique et qui normalement est du ressort du chef d'entreprise qui a à gérer ça et dont il doit effectivement...
Ce que vous dites, c'est que les chefs d'entreprise se défaussent.
Ils font plus leur boulot.
Oui, ils sont démissionnaires par rapport à leur responsabilité.
D'une certaine façon, je pense qu'ils sont démissionnaires face à leur responsabilité. Et que tout ce qui est imprévisibilité, difficulté, dysfonctionnement, rejaillit directement sur les salariés qui ont à se transformer...
Ce serait le capitaine d'un navire qui mettrait ses matelots à l'eau au moindre coup de vent.
Qui les expose en tout cas, ou alors des soldats qu'on envoie systématiquement au front.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vision d'avenir et que les patrons ne veulent pas aller loin avec leurs salariés? C'est ça que vous voulez dire, Daniel Linard?
Je pense qu'il y a le court-termisme, la loi financière qui joue un rôle de plus en plus important, que les caprices du marché sont bien réelles, que les difficultés sont bien présentes et que cette logique de mobilité fait que les patrons, souvent les managers, ne se sentent pas véritablement confondu avec le destin des entreprises qu'ils dirigent. Ils savent qu'ils peuvent passer d'une entreprise à l'autre, rebondir, et donc on ne sent plus... Beaucoup de salariés disaient, par exemple, chez Danone, du temps du père Ribou, on avait le sentiment que c'était un vrai industriel, qui connaissait le métier, qui s'identifiait à son entreprise. Et c'est vrai que maintenant, les nouveaux managers, on a tendance à les voir comme des ovnis qui se déplacent d'entreprise en entreprise ou de cabinet en entreprise et qui ont une certaine tendance à se déprofessionnaliser au sens réel du terme.
La question ultime, c'est de savoir si finalement, dans ce contexte que vous décrivez, les salariés peuvent reprendre en quelque sorte leur destin en main. Je vous propose d'écouter tout de suite, très rapidement, un dernier extrait de Ralph Blindauer. Je vous rappelle, c'est l'avocat du comité d'entreprise d'Osram. Et pour lui, quand même, les modes de lutte des salariés sont souvent archaïques et il explique son point de vue au micro de Pauline Mocor.
Il y a une arme qui est beaucoup plus efficace que la justice, c'est la solidarité internationale des salariés et c'est le travail international. Là, on en est à la lampe à huile encore. Hein. C'est un réflexe qu'on n'a pas, alors que ça devrait être le premier réflexe. On fait brûler des palettes devant l'usine, alors qu'on a un groupe international qui a son siège à Londres, en Allemagne. Le groupe s'en fiche qu'on fasse brûler des palettes devant l'usine. Les décisions, elles sont prises en haut, au sommet. C'est pour ça que quand on a affaire à des groupes internationaux, il faut, je pense déjà, il faut refuser de discuter avec des gens qui souvent ont été mis en place dans les sociétés nationales, simplement avec la feuille de route, supprimer les emplois ou fermer l'usine. Je pense que ça n'a aucun intérêt de discuter avec ces gens-là. Il faut immédiatement frapper à la tête.
Donc d'après vous, l'avenir des salariés, c'est la mobilisation internationale. Mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable?
Oui, moi j'y crois depuis toujours, puisque si vous voulez, les affaires traversent les frontières, les virements traversent les frontières, les décisions traversent les frontières. Il suffit d'un quart de seconde pour prendre une décision à Munich, à Düsseldorf ou à Londres, et puis l'appliquer dans un autre pays membre de l'Union européenne, ou même hors de l'Union européenne, partout dans le monde. Il n'y a pas de salut en dehors de ça. Si les salariés sont incapables de s'organiser et de riposter de manière coordonnée, c'est fichu pour eux. Le capital a réussi à détruire toutes les solidarités, que ce soit à l'intérieur des entreprises ou les solidarités internationales qui étaient quand même au début du XXe siècle, qui étaient plus fortes que ça. Il faut reconstruire ces solidarités internationales. C'est un enjeu vital pour le monde du travail.
Daniel Linard, on en parlait au début, de la mobilisation et de la capacité des salariés à prendre en main leur destin. Vous le dites dans votre livre « Travailler sans les autres ». Pour aller vite, autrefois, à l'époque du taylorisme, la souffrance au travail était physique et la souffrance était vecteur du lutte. Elle nourrissait des revendications collectives. Aujourd'hui, la souffrance, elle disqualifie.
Et elle isole.
Est-ce que le combat est perdu ?
C'est très difficile, effectivement, maintenant, de parler en termes de mobilisation, parce que, d'une certaine façon, la stratégie managériale, elle a abouti, elle est arrivée à maturité. Et effectivement, quand on va dans les entreprises, on voit bien que les gens se vivent dans un rapport très personnel au travail. Et quand ils sont dans la souffrance, ils ont le sentiment qu'ils sont peut-être les seuls à souffrir, les seuls à être harcelés, les seuls à être incompris dans leur travail. Moi, je suis frappée de voir qu'il y a de la solidarité quand tout le monde perçoit le même enjeu, et c'est quand les entreprises ferment. Là, on voit les salariés les cadres, opérateurs, employés, se réunir pour crier à l'injustice. Je crois que la prise de conscience que la souffrance est un phénomène général est illégitime. C'est quelque chose de relativement nouveau et on peut penser que les salariés vont, pourquoi pas, se mobiliser contre un modèle, un système auquel ils croyaient plus ou moins et qui se révèle inefficace pour garantir les emplois, pour garantir les salaires et pour garantir un rapport au travail et une place du travail dans la société qui puisse être décente.
La place du travail, aujourd'hui le travail est-il plus dangereux qu'il ne l'était autrefois?
Je pense qu'il est dangereux dans la mesure où il n'est plus celui qui permet à tout un chacun d'entrer en dialogue avec la société, mais qu'il contribue à isoler la personne des autres, et que bien souvent au travail, on a tendance à considérer ses collègues comme des concurrents ou des ennemis, bien souvent on a tendance à considérer le client aussi comme un ennemi ou une cible commerciale, et on perd de vue la finalité du travail dans la société, qui est quand même de permettre à chacun de vivre ensemble dans une interdépendance réelle.
C'est ce que vous dites dans Travailler sans les autres, Daniel Linhart. La reconnaissance se gagne contre les autres en étant en quelque sorte reconnu comme leur supérieur. C'est assez triste. Daniel Linhart, merci. Merci de votre participation à ce numéro de Microscopie. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les questions que nous avons abordées aujourd'hui, je vous renvoie à deux des nombreux livres de Daniel Linhart. Pourquoi travaillons-nous? Question simple, aux éditions RS. Et bien sûr, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, Travailler sans les autres, qui vient de sortir aux éditions du Seuil. C'est dans la collection Non Conforme. Vous aurez reconnu le discours de Daniel Linhart. Pour Gilbert Sept, passé un coup de vent au début de cette émission, je vous recommande le rapport sur le partage des fruits de la croissance en France. Il a été édité par la Documentation française des références, que vous retrouverez de toute façon sur la page de Microscopie, sur le site RFI, à la rubrique de Microscopie, www.rfi.fr. Vous connaissez ça par cœur. Merci à tous de votre attention. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, réactions ou questions sur notre adresse électronique microscopie@rfi.fr. Et dans quelques poignées de secondes, vous retrouvez, grâce à la rédaction de RFI, l'ensemble des infos du monde. Bonne semaine à tous. Au revoir.